Et c'est ce que je voudrais, à la suite des différents commentaires successifs de ces dernières semaines, où j'essaie de vous montrer la signification de certains passages des épîtres de saint Paul en relation avec la fête de Noël que nous préparons, je voudrais, avec l'épître d'aujourd'hui, continuer à progresser dans cette explication. Je ne reprendrai pas vraisemblablement tous les versets de l'épître que nous avons lu, mais quelques-uns simplement. Mes frères, c'est le Christ qui est notre paix, lui qui a fait de l'un et de l'autre un seul. De cette manière-là, par cette phrase-là, saint Paul définit, explique directement ce qu'est le mystère que nous allons vivre dans quelques jours, que nous vivons tous les jours, bien sûr, mais que nous allons célébrer dans 15 jours ou 3 semaines, c'est-à-dire à Noël. Lui, le Seigneur, qui a fait de l'un et de l'autre un seul, de qui s'agit-il? C'est-à-dire que lui qui, vous vous rappelez ce que nous avons dit dimanche dernier sur la nature et la personne, la distinction entre la nature et la personne, lui qui est de nature divine et qui est une personne divine, a épousé la nature humaine qui est devenue la sienne. C'est ainsi que, à lui seul, il épouse, il porte l'un et l'autre, et la vie divine, la nature divine, et la nature humaine. Et comme la nature humaine est une, que tous les hommes sont un, le Christ, en s'incarnant à Noël, devient un avec tous les hommes, et nous englobe tous en lui. Et voilà la réalité qui est souvent invisible à nos yeux scientifiques, si je puis dire, ou nos yeux rationnels, mais qui est le résultat d'une véritable vision, de la véritable vue qui a été redonnée à l'aveugle de Jéricho, de revoir l'endroit des choses. Et l'endroit des choses, c'est de voir que justement, tous les hommes sont un en Christ, et lui étant à la fois Dieu, à la fois homme et à la fois Dieu, il nous unit aussi à la nature divine, bien que lui soit une personne divine et que nous soyons des personnes humaines. Saint Paul continue que il a détruit la clôture du mur des séparations, abolissant la haine en sa chair. Il y a deux niveaux de compréhension à cela. Le mur de séparation, c'est ce mur opaque, irréductible, qui sépare Dieu, qui est incréé, et l'homme qui est créé, et le cosmos qui est créé. Et pourtant, le miracle extraordinaire dont nous avons la révélation aujourd'hui et pendant l'épître, c'était un flash que nous lançait saint Paul, une révélation inouïe que ce Dieu, le Dieu, si on n'a qu'un seul, que Dieu est devenu volontairement lui-même semblable à toute la créature, lui qui est incréé. Et le mur de séparation, c'est cette incompatibilité entre le créé et l'incréé. Et pourtant, en devenant créature lui-même, en devenant homme, le Seigneur, la deuxième personne de la Trinité, dépasse, abolit ce mur de séparation et il unit les deux natures. Donc nous unit nous aussi à la divinité. Et c'est cela le mystère de Noël, c'est ça l'échange qui a lieu à Noël. Et surtout, n'allez pas méditer sur Noël comme une comme le mystère d'une pauvreté, du petit Jésus qui est né dans une crèche tout pauvre, réchauffé par un âne et la laine d'un âne et un bœuf. Ça, c'est pas de la vraie pauvreté. Il y a des hommes qui naissent dans des conditions bien pires que celle-là. La pauvreté, la vraie pauvreté du Seigneur, c'est de devenir une créature, lui qui est le Créateur. Et c'est ça l'échange. Le mystère essentiel de Noël, cet échange qu'il y a entre Dieu qui prend notre chair de manière à ce que notre chair soit divinisée, soit unie à Dieu. Et comment cela peut-il se faire? Saint Paul continue, « La loi des préceptes dans ses décrets, afin de créer en lui les deux peuples en un seul, l'homme nouveau faisant la paix et le réconcilier pour Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix. » Ceci est encore fondamental. Le Seigneur unit ces deux mondes, le monde divin et le monde humain, à travers la croix. C'est-à-dire, non pas comme on l'entend souvent, parce que c'est facile de le comprendre comme ça, mais c'est insignifiant, que ce serait par sa souffrance que le Seigneur nous aurait réconciliés avec lui, comme si la souffrance en elle-même pouvait faire quelque chose. La souffrance, il l'a portée, d'accord, mais d'une certaine manière, il la subissait. Et qu'est-ce qui peut nous sauver à travers la souffrance, la sienne ou la nôtre, c'est l'attitude intérieure que nous avons par rapport à cette souffrance. La souffrance, on peut la prendre avec révolte, et à ce moment-là, elle est négative, elle n'est que du mal. Ou alors, la même souffrance peut être vécue avec amour, avec patience, avec amour, non pas pour la souffrance en elle-même, mais pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui éventuellement nous valent cette souffrance-là. Et c'est l'amour que l'on met dans la souffrance qui, elle, change la nature des choses. Et c'est ainsi que par la croix, par sa souffrance sur la croix, mais pas par la souffrance elle-même, mais par l'amour qui témoignait, par l'abaissement qui était le sien, en acceptant et en pardonnant à ceux qui le crucifiaient, c'est-à-dire à nous tous, qui si on ne le crucifie pas d'une manière physique, c'est pas nous qui lui plantons directement les clous dans la chair, mais par notre participation au péché, par notre abandon, notre oubli de Dieu, notre oubli du Christ, nous le persécutons, non pas une nouvelle fois, mais nous participons à la persécution qu'il a vécue historiquement une fois seulement. Et au contraire de cela, notre patience dans les épreuves, dans les souffrances, quelles qu'elles soient physiques, psychiques, affectives ou morales, cette patience-là nous unit, nous fait participer. Je dis participer, c'est-à-dire non pas nous fait imiter le Christ, mais nous fait porter la vie même du Christ qui a porté notre vie. Je reviens souvent là-dessus, tellement ça me paraît fondamental de la doctrine chrétienne, de la foi chrétienne. C'est-à-dire que Saint Paul nous dit que nous sommes réconciliés en un seul corps par la croix. C'est-à-dire que ce corps dont il est question n'est pas simplement une image. Ce n'est pas comme on parlerait d'un corps, le corps d'un corps d'armée, quelques milliers de personnes réunies dans une assemblée qu'on appelle l'armée, ou le corps des députés, ou je ne sais quoi. C'est pas une image comme c'était un corps, mais il y a, et ce sera l'occasion d'une homélie prochaine, d'un commentaire prochain, peut-être dimanche prochain, peut-être, mais j'espère avant Noël, notre union en Christ, les uns avec les autres, lui qui nous réconcilie en lui, d'une manière verticale, qui nous unit à lui, mais qui unit tous les hommes en lui. Rappelez-vous, quand deux ou trois sont unis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est-à-dire que lui nous unit, lui fait de nous avec des personnes multiples, mais une nature commune, une nature unique. Et être un seul corps est à prendre avec foi dans une signification extrêmement profonde, extrêmement pratique. Nous sommes de fait un corps. Et quand l'un souffre, tout le corps souffre. Quand l'un est joyeux, tout le corps est joyeux. C'est ainsi que, en devenant, à travers la croix, celle du Christ d'abord, comme je vous l'ai défini, c'est-à-dire avec l'attitude qu'il avait sur la croix, et avec la nôtre, qui correspond aussi à celle-là, qui est la même, puisque si tous les hommes, nous sommes un corps, saint Paul dit ici que le Christ est la pierre de fait, et la tête, si vous voulez, le sommet, nous sommes un avec lui, donc sa vie et notre vie est la même. Le fondé, dit encore saint Paul, fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire dans la foi qui nous unit, la foi qui nous permet de voir cette réalité des choses, et celle que nous ont transmis les apôtres qui en ont été témoins devant le Christ, et dont que les prophètes avaient annoncé, avaient préfiguré pour nous préparer à recevoir cette révélation. Et cette participation, cette double participation, cet échange entre la vie du Christ et notre vie, lui qui prend la nôtre pour que nous prenions la sienne, fait que nous partageons le mystère de la Sainte Trinité. Rien de moins que cela. C'est-à-dire que les trois personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit, que ne font qu'un seul Dieu, trois personnes en une seule nature divine, eh bien nous, en Christ, dont il est la tête et nous sommes les membres, nous sommes des milliards de personnes humaines à être une seule nature humaine. Donc, étant avec le Christ, nous sommes aussi en voie de divinisation, nous sommes aussi unis aujourd'hui à Dieu. C'était ce que nous avons vécu quand nous avons communié tout à l'heure au corps et au sang du Christ, à sa nature et à sa vie précisément. Et saint Paul termine, ainsi vous êtes coédifiés, vous êtes édifiés en même temps, vous participez pour être une demeure de Dieu dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire que par la force de l'Esprit Saint, nous sommes véritablement la demeure de Dieu. Non pas que nous le recevions, j'allais dire, extérieurement, comme nous recevons une bouchée de pain que l'on avale, mais nous devenons la demeure de Dieu, c'est-à-dire que notre être même, notre nature est remplie de la vie divine. Et c'est cette nature-là qui est divinisée. Et si nous prenons ceci au sérieux, si nous prenons cette, cette réalité-là pour véritablement la réalité qui ne nous est pas toujours donnée de voir, mais qui, comme l'aveugle de Jéricho, si on, le Seigneur nous redonne la vue, on peut en percevoir quelque chose, c'est cette perception-là, cette foi-là, qui nous permet de laisser le Christ vaincre en nous toutes nos faiblesses et toutes nos maladies, toutes nos passions, toutes nos difficultés, hein, trouvent leur apaisement, trouvent leur solution, trouvent leur rédemption dans la conscience d'être un avec Dieu. Car là où est le Christ, là où est la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Donc si le Christ est en nous, il n'y a pas de ténèbres. Si la vie du Christ est en nous, il n'y a pas de vie pour le péché. Momentanément encore, puisque nous sommes hélas, ou par la grâce de Dieu, nous sommes voués au changement, tant que nous sommes encore dans l'histoire de ce monde, nous, il y a chez nous des hauts et des bas, des avançades et des reculades, des avancements et des reculades, mais finalement le Christ est vainqueur et le Christ nous amène à une transformation qui n'est pas due simplement à notre effort est nécessaire pour y participer, pour collaborer, pour accepter les transformations que le Seigneur opère, mais c'est le Seigneur qui change notre cœur et qui modifie ce que nous sommes aujourd'hui dans notre nature déchue pour en faire des hommes nouveaux, des hommes déifiés. C'est ça la sainteté. C'est ça que l'Église a manifesté à travers la canonisation de Saint Sophronie et de Saint Jérôme, et c'est ça auquel on est appelé. Contrairement à une impression ou une accusation dont nous sommes quelquefois victimes, n'ayons pas peur de cette réalité des choses. N'ayons pas peur de sombrer dans l'orgueil. Ah, vous prenez pour des saints. Non. Il n'y a pas d'orgueil à cela. C'est simplement reconnaître la vocation, l'éminente vocation à laquelle Dieu nous destine. Là où il n'y a pas d'orgueil, c'est que nous savons à quel point nous en sommes indignes et à quel point nous commettons la faute grave, gravissime, de ne pas y faire attention ou de ne pas y croire. Mais de fait, c'est la vocation que le Seigneur nous donne, c'est à cela qu'il nous destine. Il n'y a pas d'orgueil, parce que ce n'est pas nous qui pouvons créer cela, ce n'est pas nous qui le désirons d'une certaine manière, on y collabore, mais on ne le désire pas. C'est un don gratuit de Dieu, et pourquoi refuser à Dieu ce don-là, puisqu'il nous le donne? Donc on ne peut pas sombrer, quelle que soit notre faiblesse, on ne peut pas sombrer dans le désespoir, ou dans l'absence d'espoir, je ne sais pas comment l'exprimer, et parce qu'il s'agit simplement d'accepter la vocation de Dieu, d'accepter le changement que Dieu opère en nous, et il a le temps devant lui, c'est-à-dire que tout le laps de temps qui nous est laissé sur terre, de quelques minutes, de quelques mois, ou de quelques années, ou de nombreuses années, c'est le temps qui est nécessaire pour Dieu pour faire son œuvre qui nous permet de devenir des hommes nouveaux. Donc réjouissez-vous et ayez conscience que c'est cela que nous fêtons à Noël. Mais c'est pas, il ne faut pas en prendre simplement conscience à Noël, c'est toute notre vie, évidemment, qu'il faut essayer de vivre à ce niveau-là.